Le sport. Tous les sports.
CFM.
Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Lundi Sport. Nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1 avec notre spécialiste au foot, Jean-Claude Vigroux. Salut Jean-Claude.
Bonsoir.
Tu es accompagné de David.
J'ai David à côté. Les deux David.
Les deux David sont là.
Pour eux deux David.
Bonsoir à tous.
Salut, salut. Il n'y a pas de neige à Rodez ?
Il y en a pas encore, mais tout à l'heure, il faisait quelques petits flacons, comme on dit.
Des flacons. Hein ? Bon, bah, très bien alors. Très bien, très bien. Jean-Claude Desfarges pour le rugby à Caylus.
Salut, ça.
Salut,
Jean-Claude. C'était le flacon de Niol, c'était le flacon qui avait de quoi dedans.
Ouais, il faut se réchauffer, Rodez.
On a passé un week-end pluvieux, les gars. Hein.
Ouais, ça dépend. Non, moi, il n'a pas plu.
Au Bahamas, il fait toujours beau.
J'aurais bien aimé, mais non, j'étais à Cahors, il ne pleuvait pas. Et à Montauban, on retrouve Jennings pour lundi sport.
Salut Yannick, salut tout le monde.
Voilà, Jennings qui s'est rétabli. C'est la semaine dernière, on nous a abandonné. Et bien sûr, Rémi est à nos côtés.
C'est la fête du Paris Saint-Germain qui t'a cloué au lit.
Ouais, c'est ça, t'as pas voulu venir parce que t'avais la chouma, quoi.
Ah, alors ça, ce que j'avais plus, la défaite du PSG, alors là, j'étais rétamé, là.
C'est ça, c'est clair.
En plus, on avait fait un sujet exprès pour toi la semaine dernière en parlant de Paris. Et du coup, on n'a pas pu en discuter avec toi.
Ouais, mais il n'est pas guéri encore, Jennings. Hein
ouais, il se rétablit. Mais le Paris Saint-Germain, c'est un peu comme Jennings. Oui, ça se rétablit tout
seul. C'est ça. Ils ont un peu de mal, là. En ce moment, ils ont du mal à se remettre de la défaite, en vrai.
Ça tousse, ça grippe.
Très bien. Et bien sûr, Rémi va nous apporter son analyse technique et sportive, comme d'habitude.
Oui. Et puis des questions. J'ai préparé un très bon quiz.
Et les amis, dans le studio, je ne suis pas tout seul. Hein.
Et bien sûr, j'allais le dire, parce qu'on va parler d'escalade. C'est rare, voilà. Mais on a un très bon club d'escalade dans le Tarn-et-Garonne. C'est le Quercy Grimp. Et la présidente, madame Agnès Vigan-Bobby, est avec toi, Caylus, Jean-Claude. Ouais,
avec moi, elle va vous dire bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, madame Vigan.
Bonsoir.
Donc, on reviendra sur ce dossier escalade un peu plus tard dans l'émission, mais pour commencer, j'aimerais vous poser une petite question.
Juste dire qu'effectivement, il y aura, bien sûr, en rugby, il y aura les résultats que va nous donner bien Jean-Claude dans quelques instants. Il y aura des reportages également que nous a rapporté Frédéric, qui était sur place, qui est allé directement dans les vestiaires de l'USM se frotter à la boue des t-shirts des joueurs, et Dieu sait qu'il y en avait de la boue à la sortie du match de vendredi soir. Et puis on aura aussi une championne, Cocorico, médaille d'argent en athlétisme. Elle est montalbanaise et elle sera avec nous au téléphone.
Voilà,
tout à l'heure.
C'est du cross country.
Voilà.
Et pour commencer, donc comme je vous disais, je vais vous poser une question, monsieur. Est-ce que entraîneur est-il dangereux pour la santé? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que Pascal Duprat, nouvellement nommé entraîneur du TFC, était victime d'un malaise à la semaine. Il n'a pas pu accompagner son équipe à Marseille. Et il y a eu plusieurs cas comme ça qui sont déjà arrivés, notamment avec Michel Derzakarian, l'entraîneur de Nantes, qui a eu plusieurs malaises dans sa carrière en 2014 et en 2015. Donc, moi, je vous pose la question, est-ce qu'entraîneur, c'est dangereux pour la santé?
Oh ben, visiblement, hein, quand tu vois David Fabier, il va pas super bien, il entraîne les filles quand même.
Tout à fait. Non, ouais, je pense que, alors dangereux pour la santé, je ne sais pas, mais je pense que c'est une certaine pression qui règne autour, surtout des clubs d'élite comme ça. Hein. Moi, mon petit club de village, non, on n'a pas de pression, la pression, on la boit. Mais je pense que la pression, il doit y en avoir un petit peu. Alors dangereux pour la santé, après, c'est peut-être propre à chaque entraîneur et spécifique à leur bilan médical, mais après ouais, je pense que Roland Courbis aussi avait eu des alertes au niveau cardiaque.
Il en a eu d'autres alertes.
On est d'accord. Mais on a vu que Duprat, ben oui, après une séance, c'était pendant une séance d'entraînement, tu disais un petit malaise cardiaque.
Il a dit que c'était pas cardiaque hier.
Non, c'est pas cardiaque.
Non.
Moi j'avais compris cardiaque.
Non.
Bah, peut-être parce qu'il s'est vraiment aperçu du niveau du TFC, donc du coup.
Où c'est que j'ai atterri? Où je suis?
C'est vrai que être entraîneur, c'est vraiment pas facile parce que on fait deux matchs bons et ça va, l'équipe remonte. Mais là, t'enchaînes trois matchs d'affilée vraiment pas bons et là, t'es limite sur la sellette du jour au lendemain et t'es prêt à être giclé du club. Donc, c'est vraiment très difficile. Après, Après, dire que c'est qu'il y a une correspondance entre la santé et le sport, enfin le métier d'entraîneur. Bon, après,
ça met une pression forcément. D'ailleurs, qui c'est qui a le plus le leadership ? Qui c'est qui est le plus chef dans une équipe, par exemple, je sais pas, en foot ou ailleurs ? Est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est le capitaine qui est le plus fort ?
Moi, je pense que ça dépend des clubs. Il y a des clubs où c'est le président. Comme à Montpellier, c'est Loulou Nicolène, donc c'est ni l'entraîneur ni le capitaine.
Lyon également, t'as raison.
Voilà, à Lyon, c'est pareil, c'est Aulas. Voilà, au PSG, c'est un joueur, c'est un peu Zlatan et Thiago Silva. Voilà, c'est un peu, je pense que ça dépend des clubs, du fonctionnement du club, parce qu'il y a des présidents qui sont plus effacés que d'autres, des entraîneurs pareils qui sont plus effacés que d'autres. Donc après, c'est...
Oui, mais on attribue souvent la faute à l'entraîneur lorsqu'on n'a pas un bon résultat. Mais enfin, il faut savoir que quand même, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Hein. Si on a 11 bourriques sur un terrain, vous pouvez tailler les oreilles d'un âne en pointe, vous n'en ferez pas un cheval de course. Hein.
Ouais, alors dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais quand tu regardes par exemple à Toulouse, où tu as le président qui ne donne aucune directive à son entraîneur, l'entraîneur qui malheureusement pour le club, qui fait des choix vraiment... vraiment bizarre avec par exemple face à Rennes, Toulouse-Rennes où Toulouse mène 1-0 à la 89e, il décide de sortir Ben Yedder qui a marqué 2 minutes avant et au final ça se finit à 2-1. Mais pour Rennes, t'as les supporters qui en ont ras-le-bol à un moment parce que ils se disent bon ben si le président ne donne pas de directive, au moins que l'entraîneur prenne les rênes du club. Malheureusement ce n'est pas du tout le cas et voilà, il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Malheureusement, par exemple, à Toulouse, t'en as aucun. T'as même pas les joueurs qui essaient de soutenir le club, enfin, qui essaient de soutenir plutôt les supporters. Par exemple, t'as plus un foutage de gueule de la part des présidents, de l'entraîneur, de l'ex-entraîneur et des joueurs. Par exemple, aux banderoles, lors des matchs du TFC. Et là, ça va pas, quoi.
Moi, tout ça pour en conclure que, virer un entraîneur, c'est plus facile que de virer 20 bonhommes d'un coup. Donc c'est le fusible le plus facile à faire sauter.
Ben oui,
voilà, donc on va conclure là-dessus pour enchaîner sur la partie foot avec Jean-Claude Vigron.
Ben oui, ben on a quand même toujours le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui n'a pu se défaire de Montpellier. Un qui doit rire, c'est Frédéric Hantz, car il pensait qu'il allait prendre une tôle à Paris. Eh bien non, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le Paris Saint-Germain n'est pas guéri encore après sa défaite de Lyon. Contre des Montpellierens qui ont joué comme des morpions, toujours collés au ballon, ils ont fait le pressing sur une équipe de Paris Saint-Germain qui était profondément remaniée. Il est vrai que ça n'avait rien à voir avec l'équipe du début de saison. Toutes les vedettes étaient au repos en préparation du match contre Chelsea. Eh bien, les Montpellierens ont bien tiré leur épingle du jeu et ça se sentait venir que Montpellier allait faire le forcing et que Paris allait temporiser. Eh bien, on a vu un 0-0. Le second, c'est Monaco. Monaco est allé faire le nul à Caen 2-2 et se retrouve à la deuxième place. Celui qui monte dans le classement, c'est Lyon. Lyon qui a réussi un carton hier soir contre Guingamp. Ils ont gagné par 5-1. Ils se retrouvent à la troisième place. Des Lyonnais qui ne flambaient pas en première mi-temps, puisque à la mi-temps, le score était que de 2-1 pour les Lyonnais. Mais en deuxième mi-temps, ils ont fait claquer le bois et ils ont marqué pas mal de buts. Ils ont marqué 3 buts en 2 secondes de mi-temps. Et les Lyonnais reviennent à la troisième place. Montpellier réussit la bonne opération avec ce match nul à Paris Saint-Germain. Un but. J'ai pas dit que le match était nul, hein. Le résultat était nul. 0-0 et remonte à la cinquième place et en fin de tableau retrouve toujours Toulouse 19e qui a réussi le nul à Marseille. Là aussi c'est incompréhensible ce qui se passe à Marseille. Et le dernier c'est 3 qui sera certainement relégable car il y a trop de points d'écart avec l'équipe précédente.
Et quand tu parlais de Paris, bon, même avec l'équipe remanié, on a vu quand même le PSG qui avait dominé le match. Ils auraient pu largement gagner parce que quand on regarde ce qu'a fait Montpellier, ben justement ils n'ont rien fait.
Ils ont collé au ballon. Ils ont rien fait.
Ils n'ont eu aucune occasion ou quoi que ce soit. Après, comme
je disais avant le match, ils ont joué comme des morpions.
Voilà. Ouais, mais ils se sont battus avec leurs armes surtout, je pense.
Voilà. Les armes, bon.
Ouais, mais après pour contre le PSG, chacun fait ce qu'il peut.
Non, mais juste, je voulais revenir sur l'Olympique Lyonnais. Et dire que voilà, après la sur la défaite du Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais méritait largement sa victoire. Et on voit que quand même, comme il remonte à la troisième place, c'est quand même le deuxième meilleur club pour moi de Ligue 1 après le Paris Saint-Germain. Et les voir galérer jusqu'ici pour essayer au moins d'accrocher le podium, c'était pour moi lamentable, parce qu'ils devraient justement pas passer devant Monaco, parce que ça va être difficile, mais au moins accrocher la troisième place.
Après, le classement de Ligue 1 se fait surtout sur la durée. Voilà, on a vu Angers en début de saison qui a bien marché, qui maintenant manque un peu d'essence pour finir cette saison. Messieurs, Saga Africa ce week-end. Hein, David ?
Ouais, tout à fait. Ouais, il a fait une petite version modernisée de sa danse. On parle bien sûr de Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de tennis, qui s'est alors très très facilement imposé face au Canada dans ce premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe, 5-0. Avec aucun set perdu dans les trois premiers matchs. J'ai pas suivi hier, mais ça s'est aussi passé vite fait, bien fait. L'équipe de France qualifiée, donc content. Tout le monde était très très content. On a dansé, on a chanté. Et on est qualifié pour les quarts de finale. Prochain rendez-vous, ça sera au mois de juillet. Ça sera plus compliqué. Parce que ça sera pas chez nous en France. Ça sera en République tchèque. Et tchèque, ils savent jouer au tennis aussi, avec notamment Tomáš Berdych.
Et le Canada, ils sont bons ou, c'était...
Mais ils sont pas mauvais, mais ils avaient pas Raonic, ils avaient pas aussi ils avaient pas leur meilleur.
Il leur manquait les deux meilleurs joueurs.
Ils avaient que leur raquette, quoi, c'est tout.
Hein. Voilà.
Très bien, merci. Jean-Claude Desfarges, on va parler de rugby.
Ouais, je vais faire court parce qu'il y a la dame qui attend. Là.
Vas-y, t'inquiète pas.
Allez, c'est parti. Donc, top 14, une victoire à l'extérieur, la brillante victoire de Clermont à Grenoble par 45-12. Le bonus après 8 minutes, gros match de rugby. Particularité, un match nul de Toulouse à Brive, avec un arrêt dans la lucarne de Péjouane, le demi-mêlée remplaçant de Brive, qui a été stoppé, la transformation de l'essai qui aurait donné la victoire à Toulouse. Bon, on aurait dû l'en faire retirer parce qu'il n'était pas, il n'avait pas les pieds derrière la ligne. Bordeaux-Bec, le 48 Oyonnax 1, ça sent le roussi pour Oyonnax. Montpellier bat Castres de Peu 22-19. Pau bat le Stade français par 19-12. Aïe, 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 les champions de France. Le Racing a battu Agen par 38-13. Agen est en pro des deux. La Rochelle a battu l'Ogre Toulonnais par 19-14 sur sa pelouse. Racing 1er, Clermont 2, Toulon 3, Bègle-Bordeaux 4e en fin de classement, Stade français, Agen, Oyonnax. Pro D2, une victoire à l'extérieur, celle de Lyon à Carcassonne par 38-26. Biarritz a battu Tarbes par 20-10. Bourgoin a battu Narbonne par 23-7. Deux matchs nuls, 12-12, les deux Colomiers à Mont-de-Marsan et Dax-Albi. Montauban a battu Aix par 20-10 et Aurillac a battu Bayonne par 23-10.
Et on s'arrête deux secondes. Et on s'arrête deux secondes sur le match Montauban Aix en Provence, puisque Frédéric y était. Un match qui s'est roulé dans la boue. Les rugbymen adorent se rouler dans la boue, hein, tout le monde le sait. Et donc Frédéric était dans les tribunes, tribunes enflammées à la fin de ce match. Donc il rencontre Sébastien pour commencer. Sébastien, ancien président des Ultras de Montauban, et donc qui lui répond à propos de l'équipe d'Aix-en-Provence.
Face à une équipe qui a rien fait, quoi. Ils ont fait que balancer les chandelles, et à partir du moment où on a pris le large score, ils ont arrêté, ils ont essayé de relancer, et puis là on a passé toute la deuxième mi-temps dans leur camp de façon beaucoup plus sereine. Donc moi je retiendrai qu'il n'y a pas de crise à Montauban parce que le sportif marche. Le reste, hein, je laisse faire les professionnels.
Voilà, et la crise à Montauban, on n'y reviendra pas dessus parce qu'on a dit qu'on n'en parlait plus momentanément, hein, du départ des entraîneurs jusqu'à ce qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Il a rencontré également Frédéric dans les vestiaires, Pierrick Esclose, seconde de ligne, et donc bah voilà, je vous propose d'écouter sa rencontre.
Je suis accompagné de Pierre Esclose qui est couvert de boue. Voilà, un petit peu ton sentiment, une seconde mi-temps, vraiment, vous avez été ultra dominateur, vraiment, vous avez forgé votre victoire dessus. Un petit peu ton analyse de seconde ligne.
Ouais, match très compliqué, hein, des conditions un peu extrêmes, terrain vachement dégradé, de la flotte. Hein. C'était compliqué de tenir le ballon, que ce soit pour nous comme pour Aix. Hein. Bon, le gros point positif, c'est la victoire. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à 2 minutes de la fin, on a 5 points et qu'on perde le bonus sur une petite erreur défensive. Donc ça c'est dommage. Après, il fallait absolument gagner. C'est la course au maintien. Bon, on était un peu mieux placés qu'eux. Là, on creuse encore un peu l'écart. Donc on retiendra ça et maintenant, on va se pencher sur Carcassonne.
Voilà, une victoire de Carcassonne qui, là, normalement, vous devrez vous assurer le maintien Mais mathématiquement, si vous gagnez Carcassonne la semaine prochaine, ça va être bon, non?
Eh ben, on sera beaucoup mieux, hein, parce que c'est un concurrent direct aussi. Après, il reste une bonne partie de la saison encore, hein, c'est loin d'être terminé. Il faut rassurer les matchs à la maison, aller chercher les points à l'extérieur, là, comme on fait depuis quelques matchs. Hein, et puis, ça devrait bien se passer. Là.
Merci, Pierre.
Voilà, donc ça c'était dans les vestiaires hors antenne. On disait, ouais, il y a moins d'ambiance que quand c'est Jean-Claude Lefarge qui fait les reportages. Il n'y a pas la musique derrière.
Ah, alors, classement, premier Lyon, deuxième Bayonne, troisième Béziers. Enfin, classement, Dax, Tarbes et Aix-en-Provence.
Merci Jean-Claude. Avant d'ouvrir notre dossier escalade, on va se quitter quelques instants pour une petite courte page de publicité.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Moissac vous propose des spectacles incroyables pour le mois de mars. De la musique avec Raoul Paz le 11 mars, en partenariat avec le Rio. Du cirque avec la compagnie Yeto le 18 mars. De la chanson avec Aldebert le 20 mars et Dominica le 26 mars, en partenariat avec CFM Radio et le Rio. Tout un programme pour un mois de mars riche en culture. Passez d'agréables moments de détente pendant la saison culturelle de Moissac. Infos et renseignements sur moissac-culture.fr.
Du 18 au 21 mars, c'est les portes ouvertes des pépinières Ronchini à Nègrepelisse. 4 jours exceptionnels avec des remises et des plantes à gagner.
Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Une équipe dynamique à votre service du lundi au samedi pour vous conseiller parmi un grand choix d'arbres, d'arbustes et vous donner la bonne idée.
Pépinières Ronchini, c'est aussi la création, l'aménagement et l'entretien de vos parcs et jardins. Les 4 jours à ne pas manquer du 18 au 21 mars pour les portes ouvertes de printemps, c'est aux pépinières Ronchini à Nègrepelisse.
Le 20 mars, portes ouvertes du printemps au terme de Cransac. Cure thermale pour l'arthrose, les cervicales ou le mal de dos, remise en forme dans le spa thermal. Nouveaux soins, nouvelle déco, venez découvrir les thermes de Cransac aux portes ouvertes du dimanche 20 mars. Profitez gratuitement des visites guidées, du buffet permanent et de la tombola. Testez le pass 3 soins pour seulement 20 euros. Le dimanche 20 mars, vous êtes au terme de Cransac. Infos et réservations 05 65 63 09 83 05 65 63 09
83. CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Alors, messieurs, avant d'ouvrir notre dossier escalade, j'ai une petite question. En quelle année la Fédération de la montagne et de l'escalade a-t-elle été créée en France?
Mais on va laisser répondre la présidente, elle le sait peut-être. Ah.
1945.
Très 1945,
bien.
Elle dit.
Voilà, très bien, c'est ça.
Oh, bravo.
C'est ça, c'est ça. Voilà, parce que le Quercy Grimpe a été créé en 2006. Mais pour ça, Madame Agnès Vigan-Bobby, la présidente du club de Quercy Grimpe, va nous parler un peu de son club.
Voilà, alors première question, Madame. Vous avez dans votre club un champion de France qui s'appelle Mathéo.
Mathéo Rousseau, tout à fait, oui, qui est champion de France cadet 2015.
Et là, vous rentrez des championnats de France de Toulouse, là, des championnats de France seniors.
Voilà, donc on a fait les championnats de France jeunes le week-end dernier et ce week-end, championnat de France seniors.
Bon, à cet attendant, est-ce qu'il y a un champion de France senior?
Alors, pas pour cette année, mais par contre, sur les deux dernières années, à Cahors, on avait champion de France aussi. Donc, en régional, on a vraiment de très bons.
Combien vous avez de grimpeurs à Saint-Antonin, votre club?
Là, sur cette saison, on est en train d'exploser et on va bientôt atteindre les 150 adhérents.
150 personnes qui font de la grimpe à Saint-Antonin?
Tout à fait.
Agnès, question?
On est à 46.
Agnès, question? Vous êtes une présidente heureuse?
Tout à fait, comblée.
Voilà, c'est à vous, messieurs.
Ouais, Agnès, une question. Championnat de France d'escalade à Toulouse. Moi, je me dis, il y a un problème là à Toulouse. C'était quoi comme escalade?
Alors, c'était de l'escalade de bloc.
Ah.
Donc, l'escalade de bloc, ça se pratique sur des murs de 4,50 m de haut, avec réception sur des tapis. Il n'y a pas de corde. C'est pas l'escalade traditionnelle, comme on peut souvent le voir dans les médias, sur une falaise, quoi.
D'accord. Et le but du jeu, c'est de grimper le plus vite possible, ou de faire des figures, ou c'est quoi?
Alors, l'escalade de bloc en compétition, ce sont des passages, qu'on appelle une voie ou un bloc, qui sont tracés par des ouvreurs et qui sont renouvelés à chaque compétition. Donc on ne sait jamais quel type d'ouverture on va trouver. Et le but du jeu, bah, évidemment, c'est d'arriver en haut.
D'accord. Madame Vigan-Bobby, je le rappelle, est présidente de Quercy Grimpe. Moi, j'avais une question, parce que tout à l'heure, on parlait de leadership en ouvrant l'émission. En escalade, on sait très bien qu'il est tout seul sur le mur, mais après, je pense qu'il y a une préparation mentale et tout ça. Donc, comment ça se passe un peu, cette préparation pour commencer à grimper?
Alors, ben là, pour les jeunes qui sont en équipe compétition, on a des entraîneurs,
oui,
sûr, et qui les préparent toute l'année pour ces compétitions. Après, pour Mathéo, plus particulièrement, lui fait partie du dispositif haut niveau Midi-Pyrénées, puisqu'il est inscrit sur la liste des sportifs haut niveau depuis quelques années maintenant. On a la chance d'avoir l'entraîneur de l'équipe de France jeune de bloc qui réside pas loin de Saint-Antonin, qui est sur Cahors, et donc qui vient entraîner également sur Saint-Antonin le mercredi après-midi.
D'accord, très bien. Très bien. Et après, ils ont une préparation mentale un peu pour faire le vide, pour vraiment se concentrer dessus, ou sinon, ils se débrouillent tout seuls?
Alors ça, c'est fait avec les entraîneurs et coachs.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas un préparateur spécifique mental pour...
Non, peut-être que quand on passera discipline olympique et qu'on aura plus de moyens...
Oui, j'imagine, parce qu'il faut rémunérer tout le monde, c'est pas évident. Et justement, on parle de rémunération, comment vous arrivez à vous débrouiller avec le partenariat? Parce que l'escalade, c'est pas quelque chose de super connu en France. Donc, comment vous arrivez à vous débrouiller un peu financièrement pour faire tourner toute cette structure?
Alors, au niveau de Saint-Antonin, on a quelques subventions en local et après, c'est essentiellement par les adhérents.
D'accord.
Et après, on organise aussi des compétitions.
D'accord, très bien. Et pas de partenaires privés qui viennent vous aider?
Non.
D'accord.
Pas pour le moment, mais par contre, si quelqu'un est intéressé, on est ouvert à toute proposition.
Il y a du sponsoring un petit peu dans l'escalade, après, quand c'est fait en professionnel?
Alors, en professionnel, il faut savoir qu'il y en a vraiment très, très peu. C'est quand même, ça reste un sport amateur dans sa grande majorité.
Bah oui, parce qu'il y a, on a peu d'images hein, d'escaladeurs.
Ouais. De grimpeurs.
De grimpeurs, ouais, voilà. Il y avait ce mec qui montait, il y a des gens qui montent sur les immeubles comme ça, un peu à main nue, sans avoir d'attache particulière. Je sais même plus comment il s'appelait.
Un en France.
Ouais, voilà, ouais.
Ça s'arrête là.
Les projecteurs sont pas trop sur votre sport. Hein.
Non, mais par contre, c'est vrai qu'on est un sport en plein développement. Là, on est en plein boom, donc ça vient petit à petit. Il faut être patient.
Quand il pleut, vaut mieux escalader en salle que remonter le roc d'Anglard. Hein.
C'est sûr.
Alors, justement, Agnès, là, c'était les championnats de France de bloc, donc c'est des parois en je ne sais quelle matière, mais en tous les cas, c'est pas de la montagne, c'est pas de la vraie pierre. Est-ce que l'un exclut l'autre? C'est-à-dire, est-ce que le jeune Mathéo, là, il fait aussi de l'escalade en montagne, sur rocher, ou quand on est spécialiste de l'un, on n'est pas forcément bon dans l'autre spécialité?
Alors non, c'est pas incompatible du tout. La seule chose, c'est que quand on arrive à ce niveau de compétition, donc au niveau où est Mathéo, le temps manque un peu pour aller en extérieur. Donc c'est plutôt la partie ludique et loisir qu'on réserve sur l'extérieur. Et tout ce qui est intérieur, c'est vraiment l'entraînement pur et dur.
Tiens, demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Question, est-ce qu'il y a des bonnes grimpeuses chez vous ou d'une façon générale? Est-ce que ça grimpe aussi bien chez les dames?
Ça grimpe très fort chez les dames. Et justement, ce week-end, Clémentine Kayser a remporté le championnat de France senior femme. Alors aujourd'hui, elle est licenciée à l'AS Grimpé à Aix-en-Provence, mais il faut savoir qu'elle est issue du club Espace Grimpe à Montauban.
D'accord.
D'accord. Et pourquoi elle est partie là-bas? C'est pour vraiment faire l'escalade là-bas ou c'est juste un déménagement?
Non, c'est les études et l'emploi.
D'accord.
Et tu sais qu'à Saint-Antonin, il y a d'autres médaillés quand même. Il n'y a pas que Mathéo. Alors,
il y a son frère, non?
Marès de certains joueurs, certains coureurs, enfin de certains grimpeurs plutôt.
Sur 2014, il y a Arthur Bobby qui était champion de France minime également. D'accord. Aussi en bloc. Et donc sur 2015, donc Mathéo a remporté le titre. Il a fait aussi cinquième en Coupe d'Europe. Et son frère Jérémy était deuxième du classement national aussi sur l'année dernière. Donc oui, on a des talents.
Vous avez des champions à Saint-Antonin.
Oui, et puis on a des petits qui promettent aussi.
À quel âge on commence à grimper?
On peut commencer à grimper à partir de 5-6 ans. Enfin, nous, en tout cas, au club, on les prend à partir de 5-6 ans. Après, certains clubs les prennent à partir de 3 ans, quand l'infrastructure le permet.
D'accord. Et comment on vient s'inscrire au club de Saint-Antonin?
Alors, il suffit de venir nous voir. à la salle de bloc. On organise chaque année des portes ouvertes au mois de septembre. Et sinon, on est présent le mardi soir, le mercredi tout l'après-midi, le jeudi soir et le samedi matin à la salle de bloc. Et après le mercredi soir, le vendredi soir, au gymnase à Saint-Antonin également.
Et est-ce que vous faites des sorties de temps en temps? Est-ce que vous avez en extérieur des, comment ça s'appelle, des lignes aménagées, vous savez?
Alors bien sûr qu'il y a des parois aménagées, donc dans les gorges de l'Aveyron on est particulièrement gâté puisqu'on a plusieurs sites d'escalade, il y a à peu près 800 voies dans les gorges.
D'accord. 800 voies. Et c'est qui entretient ces voies là? C'est, ça appartient pas au club, donc du coup comment ça se passe?
Alors c'est l'association, le club des Verts qui s'occupe de l'équipement et après l'entretien est généralement fait également par des Verts sous couvert du comité départemental de la montagne et de l'escalade de Tarn-et-Garonne.
D'accord, très bien. Eh bien très bien Madame Bobby, on est content d'avoir parlé d'escalade parce que ça fait un peu de renouveau dans ce sport qui n'est pas trop connu mais qui je pense gagne à être connu parce que c'est... Enfin, pour moi, l'escalade, j'en ai fait en étant petit à l'école. Il y a des murs un peu partout dans les salles de sport. Donc, du coup, je pense que c'est un sport qui mérite qu'on en parle un peu plus.
Et avant de se quitter, c'est quoi votre prochaine actu?
Alors, la prochaine actu, ce sera la compétition Quercy Grimpa Bloc au mois de juin à Saint-Antonin.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Restez avec nous juste pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Connaissez-vous Sylvana Lima?
Tu m'as piqué ma question.
Ah non, c'est moi, c'est la mienne, celle-là.
Oh, mais je la réponse alors.
Alors, qui est Sylvana Lima, monsieur dame?
C'est une brésilienne, hein?
Oui, c'est une brésilienne.
Ça doit être une grimpeuse, ça.
Non. C'est pas une grimpeuse.
C'est une entraîneuse.
Hein?
Une entraîneuse.
C'est pas une entraîneuse.
Mais c'est pas ta question, c'est pas la finalité de ta question.
C'est ça. Il y a plusieurs questions à tiroir, mais qui? Je voudrais d'abord que vous me disiez quel sport elle pratique.
Elle fait du sport, cette fille?
Sport de glisse.
Oui. Sylvana Lima fait du sport de glisse, effectivement.
Du ski?
Elle est brésilienne. Elle est surfeuse. Mais quelle est sa mésaventure? C'est la plus grande surfeuse brésilienne, en fait. C'est la numéro un du surf au Brésil. Sylvana.
Elle a été championne du monde, elle a à peine 30 ans, elle a évolué en milieu pro et tout ça.
Et qu'est-ce qui lui arrive?
Ça s'est mal terminé, s'est fait bouffer par une bestiole.
Non, elle s'est pas fait bouffer par une bestiole. Mais voilà, elle fait la une de l'actualité. On parle d'elle dans tous les magazines féminins.
Elle a perdu son maillot de bain sur une compète.
Elle a posé nu, c'était Sylvano. Pas posé nu et c'est peut-être l'inverse son problème justement.
C'est qu'elle a un maillot une pièce.
Non, c'est pas ça. Allez, on cherche un peu.
Et elle a un tatouage dans le dos et c'est pas...
Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais
elle a plusieurs tatouages et c'est pas un héron.
Un requin.
Sylvana Lima, c'est la surfeuse qui n'était pas assez belle pour les sponsors, monsieur dame. On parlait de sponsoring à l'heure. Et les diktats de la beauté, ça touche tout le monde. Et Sylvana Lima, championne de surf brésilienne, n'a pas pu trouver un sponsor pour soutenir sa carrière pendant près de 13 ans, car elle n'entrait pas dans leurs critères physiques. Alors,
elle est moche.
Moi je trouve pas qu'elle soit super moche. Non. Je lui donnerais bien rendez-vous à Sylvana Lima. Et puis quand bien même, en tout cas là maintenant je pense qu'elle va trouver des sponsors.
Ça y est, je crois qu'elle a trouvé en fait.
Parce qu'avec le buzz qu'ils ont fait autour de ça, voilà. En fait c'est une femme qui est tout simplement nature, mais elle est pas taille mannequin, elle est pas
Elle est pas bling bling non plus.
Hein. Voilà.
Et donc elle a évolué en milieu pro sans sponsor pendant plus de 13 ans, pendant que d'autres étaient sponsorisés, payés, gavés. Elle devait travailler à côté alors que les autres ils pouvaient passer toute la journée à surfer.
Mais la vie est injuste.
Ouais, après, quand tu la vois taper dans les sacs de sable, t'as pas envie de mettre ta tête en face, hein, parce qu'elle cogne. Hein.
Très bien, merci Rémi. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous allons parler de cross-country avec Mathilde Sagne. Mais avant ça, c'est l'heure du flash.
CFM. Il est 18h, il vous tarde de vous mettre au chaud? Trouvez la solution avec les Maîtres du Feu à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM, toute l'info Normidie-Pyrénées.
Bonsoir à tous. La satisfaction des salariés de Futurol, ils se disent aujourd'hui soulagés de voir la justice avancer dans cette affaire. Deux anciens dirigeants de l'entreprise de volets électriques sont en détention depuis jeudi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné plusieurs dizaines de millions d'euros. Une affaire qui a fait plonger l'entreprise, basée notamment dans le Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, seules 93 personnes travaillent toujours pour Futurol dans le département. Ils étaient 180 en octobre 2014. La région Midi-Pyrénées ne devrait plus compter aucune zone blanche d'ici la fin de l'année 2016. Pas moins de 77 communes sont concernées par des problèmes, voire une absence totale de réseau de téléphonie mobile. La nouvelle couverture autorisée par la récente loi Macron devrait intervenir rapidement dans le cadre du plan de résorption des zones blanches, soit une enveloppe de 7,6 millions d'euros. La région Midi-Pyrénées comptabilise pour l'instant 28% des communes concernées au niveau national. Une manifestation à Rodez mercredi, à l'appel de plusieurs syndicats. C'est une grande journée d'action qui se prépare dans toute la France pour défiler contre la loi El Khomri. À Rodez, le rendez-vous est donné devant la permanence socialiste boulevard de la République à 17h30. Pour l'instant, aucune action n'est prévue à Montauban. Carole Delga fait la une des journaux, ou presque, selon un baromètre publié hier par le journal du dimanche. La présidente de la grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est la 11e femme la plus citée dans la presse en 2015. Elle devance nettement Valérie Pécresse, Cécile Duflo ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet, et ce sur un total de 1000 personnalités citées. L'hôpital Jacques Puel de Rodez fête cette année ses 10 ans. À cette occasion, 2016 sera marqué par plusieurs manifestations. Objectif pour la direction, informer les Ruthénois sur la qualité des soins prodigués au centre hospitalier. Enfin, une nouvelle Miss pour l'Aveyron, elle a été élue vendredi soir. Emeline Bourgoin a 20 ans, elle est étudiante en BTS communication à Mende. Prochaine étape pour Miss Aveyron, ça sera l'élection de Miss Midi-Pyrénées. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'actualité. Belle fin de journée en CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Alors, on va attaquer la page Indisport avec Jennings.
Ouais, deux résultats internationaux. Alors, tout d'abord, en haltérophilie, Souad Ghazouani, qui est dans le club ASPPT de Lille, remporte haut la main l'épreuve de la Coupe du Monde à Kuala Lumpur, c'est en Malaisie. Alors, elle a remporté en catégorie de moins de 73 kilos, en soulevant 140 kilos dès le premier essai. Et ensuite, en tentative avec 146 kilos et 151 kilos ensuite. Donc, une très belle performance. Et en ski alpin, je vous ai gardé le meilleur. Pour la fin, en ski alpin, Marie Bochet a réalisé un grand chelem à l'épreuve de Coupe du Monde dans le Colorado aux États-Unis. Voilà, ça avait lieu la semaine dernière. Marie Bochet a remporté le Super G, la descente, le slalom et le slalom géant. Donc, les quatre épreuves. Elle a d'ailleurs reçu deux distinctions. Alors, le gros globe de cristal qui récompense la lauréate du classement général de la Coupe du Monde, ainsi que les quatre petits globes de cristal. Donc, pour la descente, le slalom géant et le super G. Et cette distinction est attribuée aux différents vainqueurs masculins et féminins des classements par épreuve. Et puis, il faut savoir que Marie Bochet a poussé la perfection jusqu'à 17 victoires en 17 compétitions, 17 courses de Coupe du Monde pour la saison 2015-2016. Son nombre de victoires en Coupe du Monde est à présent à 62 sur 62 courses. C'est une performance vraiment exceptionnelle.
Très bien, merci Jennings. Avant d'ouvrir la page foot, David Dumont, tu aurais une petite question?
Oui, tiens, bah, une question foot. Il y avait les J-100 là, de l'Euro 2016 il y a quelques jours, il y a 5 jours, ouais. Donc on doit être à J-95. Maintenant, c'est les championnats d'Europe de football, hein, je parlais évidemment, qui auront lieu dans notre pays. À cette occasion, il y a quelques jours, La Poste, l'un des partenaires, a présenté le timbre officiel de la compétition, messieurs. Alors ce timbre, il est plein de nouveautés technologiques. Moi, je vais vous demander la grande particularité de ce timbre Euro 2016.
C'est qui coûte cher?
Il est rond.
Il est rond, mais c'est pas la plus grosse.
Il est autocollant.
Ça aussi, c'est pas sa plus grosse particularité. Non, il y a une originalité que j'avais pas encore vue dans les timbres.
Il a pas de dents.
Pardon, Jean-Claude.
Il a un hologramme.
Non, c'est pas ça. C'est pas un billet. Pas encore. Pas cette fois.
Il a un relief.
Non, alors je vais vous aider un petit peu, sinon je pense qu'on est parti pour y passer un peu de temps. Il sent, il a une odeur, ce timbre. Maintenant,
il pue le gazon.
Laquelle odeur?
Il pue le gazon.
Ouais, c'est pas
l'herbe
mal.
Fraîchement coupée.
Voilà, il sent l'herbe fraîchement coupée. Ce timbre de l'Euro 2016, effectivement, il est rond, il sera un peu argenté pour le côté un peu relief aussi, pour le côté nouveauté, mais sa plus grosse particularité, c'est qu'il sentira le gazon fraîchement coupé. Ce timbre, il sera disponible à partir du 2 avril, il coûtera 1 euro, donc c'est cher, mais enfin, au prix du timbre ces derniers temps, c'est pas si cher. Mais par contre, dépêchez-vous de vous le procurer, parce qu'il y aura seulement 1 200 000 exemplaires qui seront publiés, imprimés, voilà.
C'est un timbre qu'on peut coller pour envoyer un courrier ou pas quand même.
Ouais, et qui marche dans l'Europe entière d'ailleurs. Ça marchera dans tous les pays.
Et quand tu colles ça sur une enveloppe, si ça sent l'herbe, gare, ça passera pas la frontière.
Ça dépend quelle herbe.
Voilà.
Et pour répondre à un auditeur passionné de l'anisport, non, ça ne sent pas Zaya. Parce qu'il me disait, ça doit être l'odeur de Zaya. Donc Romain Pons, attention à ce que tu m'envoies. Voilà, donc on va ouvrir la page de foot avec Jean-Claude Rigaud.
Ben oui, il y avait une journée de championnat de CFA et Rodez n'a pas joué son match à Polignan puisque le match a été remis, il devait rencontrer Pau, match remis. Un autre match a été remis, c'est Tarbes qui recevait 7, également le match a été remis. Et Pau reste donc leader de cette poule avec 3 points d'avance et un match de moins sur son suivant. Donc Rodez, lui, est à la 13e place, ça sent le brûlé derrière Rodez, je sais pas qu'est-ce que c'est cette odeur qui traîne, mais puisqu'il n'y a que Tarbes et Bayonne qui sont derrière les Ruthénois, et ils sont toutes les trois équipes à égalité, dont nombre de matchs, ils ont 18 matchs effectués. Il va falloir mettre le cul par terre du côté de Rodez pour essayer de se sortir de ce mauvais pas et de ce mauvais classement surtout. Mais on jouait en division d'honneur. Et en division d'honneur, l'équipe réserve de Rodez est allé chercher le match nul à Giroux, le dauphin du premier, c'est Toulouse-Rodéo, et Rodez et Giroux ont fait match nul 0-0. Un autre match est joué, c'est Onet-le-Château qui a réussi à redresser la barre un petit peu et à battre le dernier de la poule, Fonsorbe. Les Onetois ont gagné par 1-0. Le match Toulouse-Saint-Jean, Luc Primob, c'est pas joué non plus. Donc Rodez, Luc Primob reste à la 7e place sans avoir joué. Rodez est 8e et Onet-le-Château est 12e. Les filles ne jouaient pas puisqu'elles reprennent leur championnat le week-end prochain. Donc il n'y a plus de résultats pour la partie régionale de football.
Merci Jean-Claude. On va ouvrir la page vélo avec David Dumont. Mais avant ça, je vous annonce un petit résultat de vélo, bien sûr. Paris-Nice avec la victoire du Français Arnaud Démare cet après-midi sur la deuxième étape de ce Paris-Nice. Vas-y David pour le vélo avec le vélo Aveyron.
Ben ouais, avec un Aveyronnais qui s'est distingué ce week-end. Alors c'était pas sur le Paris-Nice, hein, pas encore, il est tout jeune. Il s'appelle Étienne Fabre, il a 19 ans seulement. Et il a remporté ce week-end le circuit des quatre cantons. Alors c'est une épreuve sérieuse, hein, c'est une épreuve du calendrier national du cyclisme, du championnat de France de cyclisme sur route. À 19 ans, il a donc remporté cette épreuve au long de longue de 172 km. C'était du côté d'Yzeure dans l'Allier. Un jeune Aveyronnais qui a brillé avant une jeune Montalbanaise qui elle a aussi brillé ce week-end du côté du Mans. Et on verra ça tout à l'heure.
D'accord, donc on va avoir Mathilde Sagne au téléphone.
Mathilde Sagne qui est revenue avec une médaille.
Avec une médaille,
David,
je crois.
David Dumont.
Eh ouais, médaille d'argent même, hein, si je dis pas d'erreur. Mathilde Sagne qui bah, participait au championnat France de cross country. Elle, c'est dans la catégorie espoir qu'elle a gagné cette deuxième place. Les espoirs, c'est les 20, 21, 22 ans. Enfin, va nous dire plus. Et surtout, quel âge est là exactement, Mathilde, si elle est avec nous. Bonsoir, Mathilde.
Et elle fait partie du club de Montauban. Hein. Bonjour, Mathilde.
Oui, bonsoir. Donc, vous avez tout à fait raison. Catégorie espoir, c'est moins de 23 ans.
Et d'accord. Alors toi, t'as quel âge?
Moi, j'ai 20 ans, donc je suis une espoir deuxième année.
Très bien. Alors, deuxième place à l'occasion de ces championnats de France de cross-country ce week-end au Mans. Deuxième place, le problème, c'est que devant, il y a une première place. Mais le bon côté des choses, c'est que derrière, il y a plein d'autres places. Toi, t'es contente? C'est une bonne surprise ou t'espérais carrément la médaille d'or?
Oui, non, carrément. Je suis carrément contente. La première place, c'était vraiment intouchable. C'est la première de la catégorie espoir. C'est Jacqueline Gandard qui est vraiment au-dessus du lot. Elle a fait carrément deuxième en élite, c'est-à-dire toute catégorie confondue. Ouais. Elle a 20 secondes de Clémence Calvin qui vise la qualification aux Jeux Olympiques cette année pour Rio sur 10 000 mètres, on va dire.
D'accord, mais elle, elle a quel âge par rapport à toi?
Elle a 21 ans.
Elle a qu'un an de plus.
Elle a un an de plus, mais encore un peu plus de talent, quoi, on va dire. un niveau au-dessus, donc vous savez, la première place est imprenable. Et par contre, vous savez quand même que j'avais de la concurrence. Entre 2, 3, 4, et rien n'était vraiment joué à l'avance. Donc du coup, je suis contente. Ouais, j'espérais pas mieux que 2, on va dire.
Et si j'ai bien...
Déjà un podium me comblait, et 2, c'est encore mieux.
Très bien. Si j'ai bien compris, donc les espoirs courent avec les élites.
Oui, c'est ça. À partir de la catégorie espoir, on court avec les élites. Du coup, ce qui fait que la course est un niveau beaucoup plus relevé. Et on est plus nombreuses au départ. On est presque 400 sur la ligne de départ. Et aussi, l'avantage, c'est que ça permet de pouvoir se comparer du coup aux élites parce qu'on a aussi un classement général. Et mettons dans ce classement aussi, ça m'a permis de voir que j'avais progressé parce que je fais 33e l'an dernier en classement général. Et là, je finis 15e au général, donc ça permet aussi de voir la progression.
Et quelle distance? Quelle était la distance du cross?
C'était 7300 mètres. Voilà, dans la boue, par contre.
Oui, tu fais combien au niveau chronomètre?
Je vous avoue, je sais même pas, parce qu'en fait, les crosses, le chronomètre, c'est pas tant important que ça, vu que les terrains changent à chaque fois, c'est vraiment, on regarde vraiment la place en cross et, on regarde pas trop le chronomètre, donc j'ai même pas regardé là hier encore.
Comment est-ce que tu t'étais préparé, à ce cross là?
J'ai fait mon premier semestre, donc de septembre à décembre, j'étais à Montréal pour un échange avec mon école d'ingénieurs. Donc du coup là j'ai couru avec le club de l'université, j'ai fait la saison de cross là-bas, donc ça m'a permis de maintenir une bonne forme. Après revenu ici, on n'a pas eu le temps de re-entamer toute une préparation d'entraînement entière, donc mes entraîneurs ont vu que j'avais quand même gardé un bon niveau au Canada, et on a repris, on a pour maintenir, et voilà, on a retravaillé des petites choses en janvier, février. Bon après voilà, 2 mois ça va vite, donc on n'a pas tout... Ils sont repartis de la base foncière que j'avais faite à Montréal, et on a fignolé, on a, voilà, pour être en forme au jour J.
Dis-moi Mathilde, on dit que dans le sport c'est souvent les jambes, mais chez toi c'est la tête et les jambes.
On est obligé un peu, surtout que le demi-fond c'est quand même...
Ah, attention. Ah ben, y a un bug sur le téléphone.
Elle a collé l'oreille, je pense.
Oui, c'est ça, c'est les boucles d'oreilles ou la médaille, tu sais, qui a collé comme ça.
Peut-être, hein. C'est aimanté.
C'est la médaille d'argent, tu vois, qui a fait bugger le smartphone. On aimerait bien pouvoir la voir, au moins pour lui demander aussi la suite. Qu'est-ce que c'est pour elle ses prochaines compétitions, et puis si elle souhaite, avec le palmarès qu'elle commence à avoir, je ne sais pas, ça existe professionnel
Et Rémi, en attendant, je vais vous poser ma question quiz qui a
créé... si tu veux, allez, vas-y.
Comme ça, c'est vrai que le record du 100 mètres, c'est Usain Bolt qui l'a avec 9 secondes 58.
Oui.
Et cette semaine au Japon, il y a Justine Gatil qui l'a battu avec 9,45, mais on lui a refusé. Pourquoi?
Je connais la réponse.
Elle avait un vent favorable.
Trop de vent.
C'était pas du vent.
Oui, c'était.
Il n'y avait pas 100 mètres.
C'est des ventilateurs.
C'est des ventilateurs, ouais, c'est ça.
Il a couru entre des ventilateurs. Il en avait un au départ énorme. Et de chaque côté de sa course, tous les 30 mètres, il avait des ventilateurs qui le poussaient.
Mais par contre, petit truc sur les ventilateurs. C'est quand même quelque chose de très dangereux à faire, et qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs qui peuvent se le permettre, même s'il est poussé par des ventilateurs. Nous, on le ferait, on travaillerait de la survitesse, on aurait un risque de blessure très très important.
On se casserait la gueule à moi. Mathilde Sagne, vous n'aviez pas de ventilateur lors de cette course.
Et non, j'aurais bien aimé, mais j'avais pas pensé à celle-ci encore. J'essaierai la prochaine fois.
Vous voulez être professionnel dans l'avenir, qu'est-ce que vous voulez faire après?
Non, professionnel en athlétisme, c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, le cross-country, c'est pas une discipline très connue, et donc il n'y en a vraiment pas beaucoup en France qui peuvent en vivre. Et voilà, donc ça restera une passion. Voilà, c'est une passion, et pour moi, le sport, il faut que ça reste une passion. Bon, certes, en ce moment, quand on va en faire un peu au niveau, ça prend quand même pas mal de temps. Mais quand ça plaît, c'est pas dérangeant, et on arrive toujours à... Enfin, franchement, avec les études, j'arrive à m'organiser pour... allier études et sport, et après on verra. C'est sûr que quand je rentrerai dans la vie professionnelle, il y aura une autre étape, et on va voir comment je m'organise, mais Bon. Non, ça restera plutôt une passion.
Félicitations, en tout cas.
Mathilde. Merci beaucoup. Merci à vous. Et aussi, je tiens quand même à remercier tous mes deux entraîneurs, tout le club qui me soutient toujours et le président.
Et son nom m'échappe au président. Denis Arcuzet qu'on voilà, salue, bien sûr. Merci voilà. Mathilde Sain d'avoir été avec
et
nous.
Et merci à CFM.
Avec plaisir.
Merci.
Ciao.
D'accord, on va ouvrir la page rugby avec Jean-Claude Desfarges.
Pas de Fédéral 1 ce week-end. Fédéral 2, plein de matchs remis. Alors, je vais vous donner les résultats des locaux qui ont joué. Or, Castelsarrasin en poule 6 s'est déplacé à Orthez et a gagné une nouvelle fois par 21-15. Bon résultat de Castel qui trône en tête de cette poule. En poule 7, pratiquement tout le monde a joué. Cahors a battu Figeac dans le duel des Aveyronnais par 18-12. Ça a dû être la fiesta. Vous avez gagné de peu quand même.
Non, c'est dans le Lot.
Ouais, dans le Lot.
Donc les Aveyronnais, non.
Non, je voulais dire des Lotois.
Oui,
Cahors et Figeac, le derby du Lot, 18-12. Donc une victoire pas si facile de Cahors contre le dernier.
Non, c'était nul. C'était.
De Casseville, 19, Issoire 16. C'est serré aussi par rapport à De Casseville et Issoire qui est en fin de classement. Levezou Ségala a perdu sur sa pelouse contre les leaders et constaté de la poule Trélissac par 31-10. Malemort a battu Millau sur sa pelouse par 29-23. Et enfin, Gaillac a battu Saint-Junien par 26-3. J'ai fait un petit reportage, mais enfin, je voulais dire que à la 85e minute, l'arbitre n'avait pas arrêté le match. Pluie battante, du vent, c'était une gadoue pas possible. Et les joueurs de Saint-Junien ont voulu se faire plaisir. Et ben, ils se sont déclenchés une générale qui est pratiquement montée jusqu'à dans les tribunes.
Bon, ils se sont réchauffés.
Voilà, ils se sont réchauffés, ouais, puis après, c'était un peu nul, là, c'est fin de... Et donc, j'ai fait un petit reportage, j'ai pris le capitaine de Gaillac, Julien, qui va vous dire ce qu'il en pense de ce match.
Ouais, malgré le temps, beau match quand même, 4 essais.
Ouais, malgré le temps, super, 4 essais, on aurait signé de suite si on nous avait promis ça au début. On savait qu'ils étaient énormes devant, et on est vraiment content d'avoir pu rivaliser plus que rivaliser avec eux. On les a bien pris devant et c'est une grosse satisfaction pour nous.
Vous avez des poids lourds devant, hein ?
Ouais, c'était monstrueux devant. Déjà à l'aller, on avait souffert. Et là, on a pris la mesure du truc, quoi. Malgré les conditions, on les a pris sur leur propre jeu et c'est génial, quoi.
Ouais, c'était pas un temps à ouvrir trop le.
Non, c'était pas aujourd'hui, c'était pas possible. On s'est gelé. C'était comme vraiment, vraiment compliqué, mais c'est hyper positif pour la suite.
Ah, fin de deuxième mi-temps, sur le troisième essai, groupe pénétrant de 35 mètres.
Ouais, 40 mètres de ça, c'est hyper jouissif pour nous. Quand tu joues devant, que tu avances comme ça. Ça s'y va en courant et c'est génial, quoi.
Bon, mais la fin de saison est cool maintenant.
Ouais, là je pense qu'on va au moins finir second. On va tout faire pour finir second. Mais maintenant on va passer au poste final un peu. Et puis voilà, quoi, on va finir.
Vous avez récupéré, vous n'avez pas trop de blessés là.
Mais là on perd Laurent Crensac encore aujourd'hui. Là, apparemment il s'est fait mal à l'épaule. Donc j'espère que ça sera pas trop grave. Mais on va rentrer Sylvain Dupuis. Donc ça va nous ramener un peu. Un papa qui va revenir. Donc ça fait du bien.
Félicitations.
Merci.
C'est moi.
Julien Rélier qui nous expliquait son match. Je vais vous donner un résultat de promotion d'honneur aussi. Ce résultat. C'est la victoire de Bressol sur Capdenac. Je vais vous donner le score maintenant, 69-0. Sans commentaire.
Merci Jean-Claude. Alors on va se retrouve dans quelques instants.
69-0, ça veut dire que t'as quand même un match où t'as des mecs qui regardent d'autres mecs remettre la balle en jeu, courir, aller la poser, remettre la balle en jeu.
Ah, des fois, tu peux rien faire. Hein.
Ouais, là, ça peut être long.
Par là, l'autre jour, je sais pas qui c'est qui a vu le match Grenoble qui recevait Clermont-Ferrand. 8 minutes 21-0, 16 minutes 28-0. Les Grenoblois qui attaquaient dans tous les sens ont vu passer des Montferrandais. Pareil, hein. Et quand la ligne d'attaque, tu as Para et toute la bande qui attaque. Sept internationaux derrière, c'est ça dépend pas. Et ben, Bressol, c'est pareil, c'est pas des internationaux, mais Capdenac, ils les ont fait. Hein.
Merci Jean-Claude. On se retrouve rapidement après une petite pause de pub et on parlera d'handisport.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Moissac vous propose des spectacles incroyables pour le mois de mars. De la musique avec Raoul Paz le 11 mars, en partenariat avec le Rio. Du cirque avec la compagnie Yeto le 18 mars. De la chanson avec Aldebert le 20 mars et Dominica le 26 mars, en partenariat avec CFM Radio et le Rio. Tout un programme pour un mois de mars riche en culture. Passez d'agréables moments de détente pendant la saison culturelle de Moissac. Infos et renseignements sur moissac-culture.fr.
Du 18 au 21 mars, c'est les portes ouvertes des pépinières Ronchini à Nègrepelisse. 4 jours exceptionnels avec des remises et des plantes à gagner.
Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Une équipe dynamique à votre service du lundi au samedi pour vous conseiller parmi un grand choix d'arbres, d'arbustes et vous donner la bonne idée.
Pépinières Ronchini, c'est aussi la création, l'aménagement et l'entretien de vos parcs et jardins. Les 4 jours à ne pas manquer du 18 au 21 mars pour les portes ouvertes de printemps, c'est aux pépinières Ronchini à Nègrepelisse.
Rendez-vous rugby à Montauban, vendredi 11 mars à 19h30, l'US Montauban accueille Carcassonne. Un pour tous, tous pour Sapiac. En vert et noir, l'USM face à US Carcassonne, c'est vendredi 11 à 19h30 à Sapiac. Dès maintenant, réservez vos places et retrouvez l'actu du club sur www.usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Alors Jennings, tu vas nous parler un peu des résultats Indisport, mais avant ça, tu vas nous poser ta question.
Ouais. Alors, le club slovaque du TJ Tatra Cierni Balog. Déjà, il a un nom vraiment pas commun. Mais en plus, il a son stade qui n'est vraiment pas commun et qui a une grande particularité. D'après vous, c'est quoi?
Il est en pente.
Non.
Le stade n'est pas, a une particularité.
Ouais, il a une particularité. Ouais, d'après vous, c'est quoi?
Il n'y a pas de tribune. Il n'y a pas de gradin.
Ah ouais, un stade sans tribune serait quand même un peu
bizarre. C'est au niveau du revêtement?
Non.
Ouais, pas mal.
Mais c'est...
La couleur du stade?
Non
de
plus.
La pelouse?
De la pelouse, non?
Non plus.
C'est dimension.
Il est sous-terre. Souterrain.
Ah non, c'est pas sous-terre. C'est...
Il est en dessous du niveau de la mer.
Non, alors pour vous aider, c'est entre les tribunes et le terrain.
Il n'y a pas de buvette.
Et ça, c'est du...
Ça... Je ne sais pas, mais ce n'est pas ça.
Il y a une rivière. Il y a une rivière qui tourne autour du stade.
Ah, pas
non,
mal.
Non,
ouais.
Non, c'est pas à l'extérieur, c'est dans le stade.
Eh ben, il y a une rivière dans le stade.
La rivière.
Non plus, non.
un pont-levis.
Il n'y a pas un volcan au milieu, des fois, non?
Ah non, ils en sont quand même pas là, non.
Ils ont mis des grilles. C'est clôturé dans du grillage pour pas qu'on leur jette des trucs dessus.
Non.
Non, c'est pas ça?
Ah non, c'est pas ça. Non, c'est un truc. Il n'y a aucun stade qui l'a, à part celui-là.
C'est une protection, c'est pour protéger les joueurs.
Ah bah alors là, non, au contraire, ça ne les protège pas du tout.
Il y a une fosse.
Ouais. Non.
Il faut qu'ils fassent attention.
Il est surélevé, il est dans le vide en fait. Ils peuvent tomber. S'ils dépassent les terrain, ils font une chute. En fait, il y a un pesanteur, merdier.
Et il y a une fosse à crocodile autour.
Les joueurs, ils sont dans la tribune.
Non, ah non. Non, c'est quelque chose entre les tribunes et le terrain.
Et donc, ça a une utilité, ça a une utilité ce truc.
Ah, ben ça a une utilité, ouais, quand je vais vous dire ce que c'est tout à l'heure.
Il y a un zoo.
Comment?
Ils ont fait un zoo. Tout
et c'est la route non. qui passe, la route passe par là. Oui. Ah, c'est alors qu'il y a les tribunes et il y a la rue qui passe.
National, quoi, la nationale,
avec un feu rouge et tout, les bus.
Des passages cloutés.
Le passage clouté, le flic qui fait.
Alors c'est pas ça, mais tu es vraiment pas loin quand même là.
Vas-y, dis-nous.
C'est ligne de chemin de fer.
Exactement.
Oh. Et pour vous dire, l'ancien stade de Dublin de rugby que connaît peut-être Yannick.
Oui.
Quand les gens arrivaient à Dublin, comme j'y suis plusieurs fois, on arrivait en train, on descendait au stade et le train avait une station
dans la tribune.
Sous la tribune.
Ouais, arrière. Ouais, mais là. Non mais là, il y a pas de gare en fait. Le train il traverse comme ça.
Si t'es poussé en touche au mauvais moment, tu prends un sacré tacle.
Ah, ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je te disais de faire attention, enfin que les joueurs devaient faire attention.
Ah, ouais.
Alors en plein match, quelquefois t'as la locomotive qui passe là en plein match.
Qui tourne autour quoi, comme dans les petits trains que t'achètes à tes enfants. Ouais. Tu sais, hop.
Ah, non,
ça passe.
Non, ça passe.
Électrifié ou ça ressort? En fait, la précision, c'est est-ce que le train est électrifié? Parce que ça serait super, ça.
Non, machine à vapeur.
D'accord. À vapeur.
Ouais. Ça doit être agréable. Okay.
Et après, il gueule pour 3 fumigènes, t'imagines?
Vas-y, Aïchan, avec ta rubrique Handisport.
Ouais. Alors, 3 résultats en régional et seulement en basket fauteuil. Alors, c'est le COSA d'Andy Basket qui s'est imposé à Angoulême 63 à 42. Et l'équipe réserve du Toulouse Iron Club a battu sur son terrain Pau Béarn 88 à 33. Alors, ces rencontres comptaient pour la 15e journée de National 2 Et au classement, ben, le Toulouse Iron Club reste premier du classement, juste devant Caussade, qui est donc deuxième. Et en National A, l'équipe 1 du Toulouse Iron Club a perdu à Marseille 61-42 et glisse à la 8e place du classement. Et attention aux Toulousains, parce qu'il n'y a que 10 équipes qui s'affrontent. Alors s'ils glissent encore au plus bas, ça va être la relégation, là. Attention.
11e.
Merci, Jennings. Jean-Claude Bigrou et David Fabien, vous n'avez pas posé votre question. Allez-y, messieurs.
Ben ouais, on est timides, nous, ouais. Ici à Rodez.
Vas-y. Impose-toi, Jean-Claude.
Lors de la Coupe du Monde de football en 1982, Coupe du Monde qui s'est déroulée en Espagne, sur le stade de Séville, la France et l'Allemagne ont fait match nul 3-3. Quels ont été les buteurs français?
Platini.
Et l'arrière, on va dire le black de la défense française.
Marius Trésor.
Voilà. Oui, Marius Trésor, mais il y en a
Giresse,
trois.
Giresse, il a dit Jean-Claude.
Giresse. Qui a dit Giresse?
Jean-Claude.
Mais vous les avez trouvés tous les trois, c'est très bien.
Ouais, bonjour. Jean-Claude Desfranges, c'est une bible. C'est une bible.
Et comment s'appelait la petite mascotte en 82?
Footix.
C'était Footix.
Ah non, 98.
À 98, c'était Footix. Ouais.
À 82, non, je ne sais rien.
82, ça devait être...
Jean-Claude, allez. C'était un espagnol?
Espagnol, alors faut chercher un nom espagnol.
Castagnette.
C'était pas avec un sombrero sur la tête?
Eh ben, non, c'était au Mexique.
Ça, c'était au Mexique.
J'en sais rien, Google est ton ami. Hein.
Il pose des questions, il n'a même pas la réponse. Merci, Rémi. Vas-y, David Fabi, alors pose-nous ta question.
Alors moi, j'ai une petite question qui est d'actu. Ce week-end se déroulait le rallye du Mexique, où on a vu la victoire de Latvala et Sébastien Ogier a terminé deuxième. Et ce rallye a vu quelque chose de spécifique, un truc, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu sur ce rallye, et je vous demande qu'est-ce que c'est.
Ça se passe pas au Mexique.
Si, c'était au Mexique.
Je sais pas, le Paris-Dakar.
Oui, non, mais tout à fait. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Non, c'était bien au Mexique. C'était sur une spéciale, un peu spécifique. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu ça en rallye, en championnat du monde de rallye.
Ça fait une halte en milieu de la course.
Non.
Il a neigé au Mexique.
Non plus, je ne pense pas. C'est pas spécifié, mais c'est pas ça la question.
Personne n'est arrivé jusqu'au bout.
Si, tout le monde a terminé.
Tempête de sable.
Je ne sais pas si tout le monde a terminé, mais si.
Tempête de sable.
Non.
Un train. Qui est passé?
La tequila.
Une voie ferrée. Ouais.
La tequila.
Un troupeau de vaches.
Non. Non, non, c'est vraiment plus technique et vraiment spécifique au rallye. Je vais vous donner la réponse. C'est en fait la plus longue spéciale de l'histoire du rallye. Ça faisait 30 ans. Une spéciale qui durait plus de 80 km, chose qui est plutôt rare quand même en rallye automobile. Où là, pour le coup, les pilotes doivent vraiment faire attention à leurs pneus, leur train de pneus et tout. 80 km de spéciale.
Et tu sais combien de temps ça dure? Ça dure quoi?
Je crois que le meilleur l'a terminé en 44 minutes ou un truc comme ça, il me semble.
J'espère qu'ils allaient brancher les radars automatiques.
Ah là, pour le coup, il vaut mieux.
Ouais. C'était une orange. En Espagne en 82, monsieur.
Ah ouais.
Ah ouais.
Qui s'appelait Castagnette.
Notre français en triathlon olympique, là, en ski.
En biathlon.
Biathlon.
Olympique.
Oui.
Ouais, Martin Fourcade, 3 titres ce week-end, c'est pas fini. Le championnat du monde en Norvège, il vise un grand chelem, c'est-à-dire tous les titres, les 6 ou 7 qui seront distribués d'ici la fin de la semaine.
Il a rattrapé un autre français qui avait aussi un record de médaille d'or au championnat du monde, c'était qui?
Raphaël Poiré.
Ouais, et voilà. Un autre.
Michel Serrault.
Narorito, c'est le nom de la mascotte, Narorito.
Tu lâches rien.
C'est fini, là. Mais donc, si vous avez un agenda, c'est maintenant, voilà. Les gars, parce que là, on se casse. Hein.
Allez-y, vite.
Bon, vite fait du foot.
Allez, vite fait du foot, et je vous donne que ce qui nous intéresse, c'est la C1, ça sera mardi. On aura Real Madrid, AS Roma, Wolfsburg, la Gantoise, et surtout mercredi où Jennings sera devant sa télé pour regarder le match que opposera Chelsea au Paris Saint-Germain et Zenit Saint-Pétersbourg à Benfica.
Voilà, rugby, il y en a aussi?
Ouais, et Écosse 0, France 69.
D'accord. Merci Jean-Claude.
Bon, c'est toujours rêvé.
Mais merci, messieurs.
Un peu d'handisport pour terminer, voyons.
Voyons.
Et oui, alors samedi à 15h au gymnase de Nègrepelisse, les Pandas reçoivent Rouen. C'est le match rattrapage qui est en retard de la deuxième journée de rugby à 13 fauteuils. Et puis vendredi de 11h15 à 22h et samedi de 9h à 20h au Petit Palais des Sports de Toulouse a lieu le tour préliminaire de Coupe d'Europe de basket fauteuil. Et le Toulouse Iron Club y participera et joueront 4 matchs.
Eh bien, merci messieurs. On se dit à lundi prochain.
Très bonne soirée à tous.
Et lundi prochain, est-ce qu'il y a lundi sport lundi prochain?
Non. C'est vrai qu'on se voit pas lundi prochain, les amis, parce que on a un arrêt technique avec Aurélien lundi prochain. Ah oui, c'est vrai.
Aurélien Parowski.
15 jours.
Pendant 15 jours, il n'y a pas de lundi sport. Voilà.
D'accord.
Et pendant deux semaines, alors.
Oui, pendant
trois
deux semaines.
Trois semaines, même, avec le lundi de Pâques. Hein.
Et allez, bon, on se retrouve l'année prochaine. Hein. Voilà. Non, c'est pour savoir, parce que j'étais rendez-vous. Je suis allé à France-Angleterre, moi.
Bah vas-y. Tu...
Et je vous ramène une anglaise.
Bah oui, je veux dire, t'as le temps, t'as tout le temps.
Allez, bye. Et tu feras comme moi sur la page Facebook de CFM. Je vous envoie une carte postale de 1982 avec Nathan Rito.
On va signaler quand on reprendra lundi sport. Merci.
Voilà. Oui,
bon. Allez, bonne soirée.
Au revoir, les gars.
On t'enverra une carte postale.
Ciao. 05 63 930 020. On va se retrouver dans 5 petites minutes. On vous offre des cadeaux. Ce soir, soyez avec nous. C'est juste après le journal. À de suite.
Info. CFM, les infos.
Bonsoir à tous.